Terminé. David Chabot est avec nous pour parler de politique internationale. Comment ça va, mon chum?
Salut, salut, ça va?
Ça va super bien. David, pas le choix de commencer avec ces attentats en Australie. Donc, deux membres d'une même famille, un père et son fils, reliés à l'État islamique, qui ont décidé là, de faire un carnage sur une plage là-bas dans un rassemblement de la communauté juive.
Ouais, je pensais qu'on allait avoir plus de détails croustillants, mettons, croustillants dans le sens constructif plutôt. Là. Mm-hmm. C'est pas, on s'en prend, c'est
non,
pas du showbiz, là, mais... mais à matin, il n'y en a pas tant que ça qui est sorti à ce jour. L'équivalent du SRS australien avait enquêté sur eux en 2019, surtout sur le fils plutôt. Des liens avec l'État islamique à ce moment-là, mais pas affirmé et confirmé. Donc, il était sorti, si on veut, du cercle d'intérêt à ce moment-là. Là, évidemment, avec le recul de ce qu'on a vu en fin de semaine, ben, on se dit il aurait peut-être fallu qu'il reste une personne d'intérêt finalement, mais bon, c'est facile de dire ça par la suite. Donc là... un événement qui est tout de suite qualifié antisémite. Donc, c'est vraiment un attentat idéologique. Mais j'attendais de voir est-ce qu'on avait trouvé une lettre de suicide, mettons, quelque chose comme ça, pour comprendre un peu mieux, dans le fond, leur orientation. Est-ce que c'est en lien avec Gaza? Forcément, on s'en doute là, que ça devrait être quelque chose qui touche à ça. Mais je me suis dit, bon, ben, en Australie, en ce moment, là, ça brasse-tu? Parce que, tu sais, je te dirais que je lis pas nécessairement toujours le Australia Digest quand je suis
occupé à autre chose. Mais pourquoi donc?
Ben, écoute, il y en a quand même pas mal à suivre des pays, hein, fait que ça donne une bonne job, mais bref.
Puis l'Australie, ça va bien, puis c'est neutre depuis un bout, quand même.
Exactement.
C'est ça, c'est pas un pays qui a des histoires incroyables. Mais il y a quand même une considération de terrorisme, là, de loup solitaire, là, les fameux lone wolf. Ça, c'est la préoccupation numéro un des services de renseignement là-bas puis des services de sécurité. Puis c'est exactement à ça qui s'est passé en fin de semaine. Deux gars, un père, un fils, ça se craint tout seul dans les réseaux sociaux. On sait pas trop exactement encore. Puis là, ils décident que c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis là, boum, ils commettent l'irréparable. Donc là, qui les aurait radicalisés, comment, puis dans quel vecteur? Puis surtout, comment on peut détecter ces gens-là? Parce que quand tu es tout seul dans ton sol en bobette, là, ben oui, tu vas poster sur des forums probablement. Tu vas aller, quoi que des forums, ça fait pas mal 2004, là, mais mm-hmm. Tu vas aller sur Facebook, Messenger, etc. Fait que là, tu sais, les services de sécurité australiens sont très intrusifs, donc sont censés pouvoir détecter ce genre de choses-là. Mais ce qui est difficile dans leur travail, c'est de détecter l'intensité de la menace. Dans le sens que toi, Jeff, t'es chez vous, là, pis là, tu dis « Ah, moi, j'aime pas les Martiens, mettons. » Puis t'es bien fâché contre les Martiens.
Mais tu vas-tu vraiment aller sur Mars pour tirer des Martiens?
C'est ça, exactement ça, tu sais. Puis là, ben, après ça, on va le capter, ça. Puis là, ben, Jeff, t'aimes pas les Martiens, puis là, t'aimes vraiment pas les Martiens, mm-hmm. Mais t'as-tu les moyens de tes ambitions d'aller attaquer
ouais,
les Martiens?
Ouais, c'est ça, jusqu'à quel point je vais faire un attentat contre une certaine communauté. C'est là que la zone est grise, puis ouais. Dure à détecter. Puis là, on parle des services secrets australiens, mais c'est la même chose au Canada. Là.
Absolument, le SRS a le même défi. On s'en était parlé il y a quelques semaines, là, la nuance entre le SRS et le GRC, qui a le pouvoir coercitif là-dedans ou pas, là. Donc là, ils sont toujours dans un mode de récolte de renseignements, mais l'action après ça, il faut que les services policiers s'en occupent, là, ça, c'est pas arrivé.
Ça ramène, en fait, je pense, dans l'assiette là, principale de ce qu'on doit avoir comme menace, puis qu'on doit travailler au niveau des communications internationales. Cette menace du web-là qui est toujours là, mais surtout l'idéologie religieuse extrémiste qu'on connaît aussi à ce niveau-là, qu'on a comme un peu oublié dans la nouvelle découpe du monde. Là. Mm-hmm. Là, on voit plus la Russie, la Chine, essayer de prendre du terrain, les guerres qui sèment un peu partout. Mais en trame de fond, ça existe toujours. Les premières choses que j'ai constatées, moi, après l'attentat, sur une plage en passant hautement fréquentée, qui est extrêmement appréciée, qui est touristique à plein... Mm. C'est les réponses internationales à tout ça. T'sais, au niveau d'un attentat ou d'un geste violent comme ça, souvent, tu vas voir des premiers ministres prononcer, mais pas autant que ce que j'ai remarqué dans les dernières heures. Concernant tout cela, c'est direct. C'est nous sommes de tout cœur avec l'Australie parce que c'est une menace qui plane sur l'Union européenne aussi, mm-hmm. Dans chacun des pays qu'on là connaît du côté de l'Europe, qui plane aussi au niveau occidental et qui a fait partie des années 2000 à fond la caisse. Là. Puis on vient comme de ramener ça dans nos priorités, du moins dans la tête des gens, c'est vrai, ça existe. Puis de voir d'aussi loin que l'Australie puisse être... Nous, au niveau de l'Union européenne, tout le monde a pris son clavier pour commenter. Je trouvais ça important.
On est très similaires à l'Australie en termes de oui. Société. Là, évidemment, ils ont des réalités complètement différentes. Là, du genre, on ne trouve pas des tarentules dans nos souliers le matin. Là, donc là, il y a déjà ça de gagner.
Il n'y a pas de kangourou qui nous boxe. Là.
Non, c'est ça. Mais on a 4 pieds de neige à trouver le matin sur le char.
Ouais.
Bon, chacun ses combats. Mais c'est pour ça que la réalité est très similaire. Fait que c'est pour ça que les réactions, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça a sorti rapidement. Tout le monde, unanimement, mais de toute façon, personne ne peut vraiment dire hey, moi, je suis vraiment d'accord avec un attentat terroriste. Là. Ou en tout cas, ça
non, mais ça se prononce pas autant. Là, c'est clair que ça s'est prononcé parce que c'est terroriste.
Ouais. Oui, absolument.
Parce que tout le monde est à risque de, puis c'est une menace qui concerne tous ceux qui existent en ce moment sur la planète Terre, puis c'est un combat qui est commun.
Absolument. Puis tu sais, il y a comme deux grands... C'est une question fondamentale, dans le fond, ce que tu soulèves, parce qu'il y a la menace terroriste qui est plus religieuse, là, on va dire. Là.
Ouais.
L'islam radical, qui est un mouvement politique avant d'être un mouvement religieux, mais quand même qui sort de ça. Puis il y a aussi toute l'identitaire là, à travers le monde là, avec Trump, il est très fort là-dessus, là, de dire notre nation doit être défendue contre l'immigration, puis nous, on est comme ça, puis c'est notre style de vie. On a ce débat-là au Québec souvent par rapport à l'immigration, la langue française, la culture, bon, la fameuse charte des valeurs. Ben tu sais... Tout ça, là, c'est une autre trame de fond. Puis les deux se mélangent souvent. Puis c'est là que tu peux radicaliser des gens. Parce que ça vient te chercher dans le fond de toi-même, dans ton identité. Qui on est, puis qui on veut avoir dans notre société, puis qui on veut pas avoir surtout. Puis là, ceux qu'on veut pas avoir, ben là, c'est là qu'on va radicaliser des gens pour dire on va les expulser de notre système.
Puis
là,
est-ce qu'on travaille bien en ce sens en ce moment pour essayer d'isoler tout ça puis de combattre? Petite parenthèse de nouvelles, les gars. C'est le sujet du jour, assurément, le Mont-Saint-Anne, avant de continuer la discussion. Pas un dollar de plus du gouvernement sera... encore investi dans tout ça tant que RCR n'aura pas réglé ses problèmes. C'est une déclaration qui vient d'être faite, déclaration commune de la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, et ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, qu'on avait sur nos ondes dans les dernières minutes. On indique que la situation actuelle au Mont-Saint-Anne est inacceptable et que les 50 millions de dollars promis par le gouvernement seront retenus en attendant la suite. Mm-hmm. Et on nous parlait qu'il allait avoir prise de parole officielle, qu'elle allait être faite et surtout action. C'est l'action qu'on a décidé de faire au niveau du gouvernement.
Ah oui, puis j'ai bien l'impression qu'on s'en va vers une fin de contrat avec RCR. Là, on prend à tout le moins tous les moyens du côté du gouvernement pour enfin mettre fin à cette entente. David, je pensais pas vivre ça au Chili. Ouais. Élection du leader d'extrême droite, José Antonio Kast, à la tête du pays. Il devient le président le plus à droite depuis la fin de la dictature de Augusto Pinochet en 1990, dictature qui avait commencé en 1973 avec régime militaire obligatoire, énormément de meurtres là-bas, donc pratiquement un génocide. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette élection-là?
Ben écoute, c'est un mouvement qui est en cours là, en Amérique latine là, en ce moment. Là, il y a vraiment un schisme là aussi entre vraiment des pays plus de gauche comme le Brésil, puis bon, Venezuela, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça, quand même la ligne directrice. Puis un mouvement plus vers la droite... T'sais, les mots radicaux, pis tout ça, là, t'sais, j'essaie de faire attention. Là, on le voit souvent là, que c'est la droite extrême, pis tout ça, mais bon. Dans la posture de ben, pour l'élection, premièrement, c'était littéralement la gauche contre la droite. C'était vraiment le PLQ comme PQ, mais version idéologique, parce que l'autre côté...
Fait
là,
que c'était QS contre Parti conservateur.
Ben, sincèrement, c'était ça, mais un peu plus poussé justement vers les extrêmes, là, même si j'essaie d'éviter ce mot-là, parce que l'opposante, Janeta Jara, est membre du Parti communiste. Donc là, tu comprends que d'un côté, tu as l'option là, vraiment socialiste assez hardcore qui a quand même un passé là, au Chili. Il y a eu quand même ce mouvement-là après Pinochet. Puis tu as ben, M. Kast, là, que lui, il était vraiment très, très à droite, qui a passé à 58%. Donc là, c'était sans dire que c'était un coin flip, un pile ou face, sacrifice. Hein, c'était pas compliqué à trouver ça. Mais
on te pardonne.
Ben, merci.
Mais pas l'office de la langue française.
Non, peut-être que je vais avoir un appel pour me faire chauffer les oreilles.
Attendez, on m'appelle, on me dit que tu vas arrêter d'être chroniqueur. Non, c'est pas vrai.
Ça prenait juste un détail.
Mais c'est ça pour dire, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est...
C'est bénévole, puis on te renvoie.
C'est un mouvement en Amérique latine. Au Brésil, très à gauche. Brésil, très endetté. C'est endetté avec les Jeux olympiques. C'est endetté avec la Coupe du monde de la FIFA. Notamment, on a construit des stades qui servaient à peu près plus à rien parce qu'on a ben trop construit pour ces deux événements-là. Donc, est-ce que ça amène justement ce mouvement-là de droite qui va être plus dur avec les denrées publiques, qui va ramener cet équilibre budgétaire-là?
Oui, bien, il y a deux mouvements de droite là, en Amérique latine en ce moment. Tu as Milei là, en Argentine, que lui, c'est très... tu sais, la chaîne ça, là, on coupe les dépenses. Donc là, dans la mouvance du Brésil que tu parles là, des surdépenses puis tout, puis on peut le voir dans d'autres pays, ça, c'est cette mouvance économique-là. Puis après ça, tu as la mouvance plus identitaire, comme on vient de parler il n'y a pas trop longtemps. Donc là, ici, au Chili, c'est un peu ça le point. Donc c'est vraiment une plateforme qui ressemble beaucoup à ce que Donald Trump a proposé. T'sais. La loi et l'ordre, couper l'immigration, contrôler les frontières. Oui, il y a une saine gestion quand même des deniers publics, mais c'est pas ça le cœur, si on veut, de ce qui était proposé. Puis tu sais, le Chili est un pays qui est quand même, en termes de sécurité, il est pas simple, là, dans le sens que la situation interne est vraiment risquée à certains endroits dans le pays. Donc là, en fait, puis tu sais, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vu une citation quelque part qui disait que quand l'État échoue sur la sécurité, c'est l'électeur choisit l'ordre avant la liberté. Donc quand l'État échoue sur la sécurité, l'électeur choisit l'ordre avant la liberté. Au sens où, tu sais, c'est la job du gouvernement, dans le fond, de s'assurer que quand tu marches dans la rue, tu te sens en sécurité. Que tu te fais pas enlever, tu te fais pas kidnapper, tu te fais pas, bon, tu sais, tout ce qui peut venir avec, là. Donc, quand l'État échoue là-dessus, ben là, finalement, les gens se tournent vers l'option qui leur donne le plus le sentiment de sécurité, quitte à laisser des libertés de côté. Puis là, c'est pas nécessairement ce qui est annoncé avec M. Castre, là, sauf que c'est ce genre de mouvement-là de dire, regarde, on va restreindre l'immigration, on va restreindre les droits individuels pour être sûr que là, on met le pays droit, puis après ça, on verra ce que ça donne. Mais c'est comme ça que tu fais des dictateurs, tu sais, parce que là, tu leur donnes plein pouvoir en disant, protège-moi de la vie. Puis là, finalement, la vie, le train passe, là, le train de la vie passe, mais finalement, le dictateur reste. C'est ce qui s'est passé beaucoup avec Pinochet dans le temps.
Doit-on craindre pour le Chili à cet effet-là ou, tu sais, avec le système démocratique qui s'est installé depuis 1990, on pense que ça va tenir le coup?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un gros débat sur la Constitution là-bas, là, la Constitution du pays. Puis ils ont essayé par deux fois dans les 15 dernières années de faire une constitution qui était beaucoup à saveur de gauche, ça n'a pas passé. Beaucoup de saveur de droite, ça n'a pas passé non plus. Donc là, il y a comme une espèce de grand débat constitutionnel, puis on a connu ça ici longtemps, là, qui n'est pas résolu à savoir qu'est-ce qu'on veut de notre pays, puis quels sont les niveaux de droits individuels, puis tout ça. Puis là, ça, c'est le grand débat qui se passe en ce moment au Chili, puis j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler, parce que quelqu'un qui arrive avec des positions aussi tranchées que ça, soit que ça met tout le monde en ordre, ou bien que ça met le chaos dans les rues, puis c'est une possibilité, là.
Donc, ça va être un dossier qui va être à suivre au Chili, assurément. David, tu vas suivre ça pour nous, sans l'ombre d'un doute.
Écoute, merci. Le Chili Digest aussi, là. Ouais. Ça fait beaucoup de digest, là.
Merci encore une fois pour ta présence ce matin. T'es-tu en vacances la semaine prochaine ou tu viens nous voir?
Ouais, prenez peut-être un 3 semaines.
Peut-être un petit 3 semaines.
Je vous aime d'amour, mais sincèrement.
J'étais avec Pascal et Mathias de 7h à 10h, 22, 23, 24 décembre. Non, on va se passer
on commence à se retrouver, mais c'est correct, David. Ah, oui. Il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est juste un petit taster, là.
Ça fonctionne. Ouais.
David Chabot, merci beaucoup. Tes chroniques sont toujours très intéressantes et très à point pour nos auditeurs en termes de politique internationale. Vous le savez, ici, à Boulevard 101, on adore réagir au flot de l'actualité. Et pas plus tard que ce matin, je regarde l'heure, 8h41, le Parti conservateur du Québec qui demande au ministre de la Santé, Christian Dubé, de démissionner de ses fonctions. Eh bien, Pascal, on a quelqu'un au bout du fil qui va nous en parler.
Oui, ça fait une demi-heure qu'on a eu la déclaration et maintenant, on est au bout du fil. Le porte-parole conservateur en matière de santé, Dr. Karim et la Yubi. Monsieur Dubé vient de lamentablement échouer avec sa loi 2, c'est ce qu'il disait il y a une demi-heure.
Alors, monsieur Laoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va très bien, merci.
Merci beaucoup de vous être rendu disponible si rapidement pour nous à Boulevard 102.1. Donc, vous aviez qualifié la loi spéciale du ministre Christian Dubé de loi spéciale soviétique. Là, elle a été réaménagée par François Legault et la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Mais malgré ça, vous demandez quand même la démission du ministre de la Santé.
Ben, c'est parce que je veux dire, c'est pas le ministre de la Santé qui a fait le travail. Madame Duranceau et M. Legault ont rattrapé les choses, mais c'est parce que lorsqu'on regarde M. Dubé, à un moment donné, là, ça fait à trois prises, c'est out, généralement, là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, c'est pas juste l'histoire de la loi 2. Il y a eu la création de Santé Québec, OK? Création de Santé Québec, c'est quoi le but de Santé Québec? Ça aurait été supposé, selon M. Dubé, de décentraliser les choses. Et c'est ce qu'il faut faire, décentraliser dans un réseau de santé. Tous les réseaux de santé au monde qui fonctionnent bien sont décentralisés. Mais non, c'est une structure qui s'est ajoutée au ministère. Est-ce qu'on se rend compte, les chiffres qui sont sortis dans les enquêtes journalistiques, c'est qu'on a maintenant plus de fonctionnaires encore avec Santé Québec. C'est pas ça qu'il faut faire, plus de fonctionnaires. Ça prend plus de gens sur le terrain, donc plus d'effectifs sur le terrain, moins de gens dans les tours. Et après ça, on augmente de plusieurs dizaines de millions le budget de la santé juste pour avoir plus de fonctionnaires au sein de Santé Québec, ce qui fonctionne pas. Ça, c'est la première prise. Après, là, il y a eu le projet de loi 83, vous vous rappelez? Encore une fois, on fait tout ce qu'il faut pas faire. Les pays qui performent le plus sont des pays où est-ce qu'il y a une mixité de pratiques privées, publiques. Maintenant, on interdit les médecins d'aller au privé au sein de la loi 83. Bon. Après ça, OK, ça passe. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais là, il ajoute la loi 2. La loi 2, c'est une catastrophe totale. C'est à partir d'une bonne idée. C'est-à-dire, nous, les conservateurs, on on est d'accord avec un changement de mode de rémunération pour augmenter la portion de la capitation à 50 % pour augmenter la prise en charge. Ça, nous, on était d'accord depuis le début, les conservateurs. Le problème, c'est qu'il a ajouté toutes sortes de choses autour, des menaces, des amendes ultra salées pour des retraites anticipées, pour des gens qui voudraient aller en Ontario si c'est concerté, entre guillemets, pour des gens qui voudraient quitter. Ça fait aucun sens, toutes les lois de surveillance qu'il mettait. Et en plus, les fonctionnaires qui ont déterminé c'était quoi les niveaux de vulnérabilité des patients, ils ont fait ça de façon tout croche. Je vous donne juste un exemple. Ils ont mis un nouveau-né pastille verte. Pastille verte, ça veut dire quoi? Ça veut, là, ils ont dit qu'ils allaient les enlever, les pastilles. Ça veut dire non vulnérable. Mais le nouveau-né, dans ses premiers mois de vie, il est très vulnérable, même si c'est pas une maladie d'être nouveau-né. Donc, ce serait difficile pour le médecin de le voir en raison de sa pastille.
Mais on s'entend que c'est un échec, en fait, la façon dont ça a été fait, ce projet de loi-là, la façon dont c'était infligé, en plus, puis il y avait des délateurs là-dedans. Il y avait comme une bisbille mise au sein même des membres d'une équipe, une bisbille dans le système de la santé, une bisbille à l'extérieur du système de santé qui était visée parce que, bon, pharmaciens et tout le monde était impacté. On n'avait pas vu, en fait, disons-le comme ça, l'échec du projet autant coulé dans divers vaisseaux du système de la santé qui finalement est apparent en ce moment. Mais demander la démission du ministre, est-ce que ça change vraiment quelque chose?
Ben, est-ce que ça change quelque chose dans les faits? C'est parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est ça qui va changer le système de santé au Québec? La réponse, c'est non. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand c'est échec après échec après échec, là, ce qu'on voit, la personne qui a rattrapé les choses, ça semble être Mme Duranceau. Mais si M. Dubé est plus en mesure de faire le travail, puis il a besoin que la présidente du Conseil du Trésor le fasse à sa place, bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait là encore? C'est un petit peu ça la logique, mais est-ce que c'est ça qui va révolutionner le réseau de santé? Non. C'est la réponse à ça est non, mais on se pose la question, après une prise, deux prises, trois prises, on se pose la question, qu'est-ce que M. Dubé fait encore là s'il n'est plus capable d'avancer les choses? Et s'il a, c'était tellement mal ficelé comme loi, on se pose la question, où est-ce qu'il a pris les informations, de qui il s'est entouré, comment il a pu amener ça sur la table?
Les calculs étaient vraiment mal faits, là, parce que les médecins omnipraticiens allaient perdre jusqu'à 50 000 $ même si il atteignait les indicateurs de performance.
Mais parce que c'est grave, parce que si ça passait, et si la présidente du Conseil du Trésor et le premier ministre n'étaient pas intervenus, puis ça passait comme M. Dubé voulait que ça passe, il y avait des cliniques qui fermaient. Financièrement parlant, le calcul, il y avait des cliniques, des GMF, qui sont une forme de partenariat privé-public, qui allaient fermer. Mais si ces GMF-là ferment, qu'est-ce qui va arriver? Là, vous allez dire, il manque pas de travail, les médecins vont aller dans les hôpitaux. Oui, je comprends, mais ça prend une structure. L'intérêt d'avoir des GMF, c'est qu'il y a une structure supplémentaire pour voir les patients. Sinon, ces patients-là, pour des choses mineures, ils vont faire quoi? Ils vont s'en aller à l'urgence. Les urgences sont déjà assez engorgées. Imaginez-vous les salles d'attente des urgences si vous avez des GMF qui ferment un peu partout dans les régions. Donc, il y a tellement un manque de compétences au sein de la façon de bâtir cette loi-là qu'on se pose la question, qu'est-ce que le ministre fait encore là?
À cet effet-là, craignez-vous encore l'exode de plusieurs médecins et la fermeture de cliniques ou vous pensez que l'intervention de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau, va avoir sécurisé les gens sur le terrain?
Ben, je pense que ça va avoir sécurisé les gens quand même, parce que juste là après l'annonce, ce qu'on avait vu déjà à la clinique moi où je travaille, il y a des gens qui étaient quand même pas mal rassurés. Nous, c'est sûr que ça a comme entre guillemets craqué certaines personnes, puis il y a déjà des gens, moi j'en connais, là, c'est pas du bluff, qui ont déjà fait les démarches pour partir en Ontario, par exemple. C'est souvent des gens qui pensaient déjà d'avance. Ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. Donc oui, on va en perdre un peu quand même.
C'est déjà fait une soixantaine de départs, en fait, qui ont déjà... partis. Les gens sont partis. Je pense que c'est en Outaouais, ce qui fait en sorte que, parce que, bon, c'est sûr que c'est moins d'engagement de traverser une rivière que partir de Québec, par exemple, puis aller s'établir au Nouveau-Brunswick, mais... Les enfants ont peut-être même pas à changer d'école, mais une soixantaine.
Tout à fait, vous avez raison, c'est les endroits qui sont limitrophes, comme par exemple la chute Hawkesbury, Ottawa. C'est les endroits qui sont limitrophes avec l'Ontario, qui sont des endroits qui sont critiques pour les mouvements.
Mais c'est complexe.
Il y en a déjà qui sont partis. Donc, il y a déjà du mal qui est fait, mais je pense qu'avec l'entente qu'il y a à l'heure actuelle, d'après moi, l'hémorragie va quand même être colmatée.
Docteur El Ayoubi, on doit vous laisser après cette question-là. On doit terminer l'entrevue, mais vous êtes docteur, vous connaissez un peu le système de santé. Ce serait stupide de dire que non. Est-ce qu'on va arriver un jour à refaire une refonte de la santé? Est-ce qu'on va arriver un jour à dépasser certains syndicats? Est-ce qu'on va être capable de s'entendre où on vient de... Parce que on a l'impression que les dommages qui ont été faits actuellement, les pertes qu'on a eues, les gens désengagés vont nous donner du retard pour les 10 prochaines années. Est-ce qu'on va réussir?
La réponse est oui. Dans combien de temps, je ne le sais pas. Et c'est la nature des choses qui va nous obliger. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les pays qui ont été capables d'arriver avec des systèmes de santé beaucoup plus performants que les nôtres, en l'occurrence certains pays d'Europe de l'Ouest, dont les pays scandinaves, eux, il y avait des systèmes qui étaient un peu à la ramasse aussi avant. C'est juste qu'ils ont été plus visionnaires que nous et ils ont commencé à faire leurs changements plus tôt. Ils ont commencé à faire leurs changements dans les milieu des années 90, fin des années 90, parce qu'eux, ils ont anticipé leur vieillissement de la population. Notre système de santé, il n'était pas mauvais pour les années 60, 70, là, avec la Révolution tranquille, l'arrivée de la carte d'assurance maladie, puis on remet pas tout ça en question, mais on avait une population qui était jeune et en bonne santé de façon générale. Maintenant, avec une pyramide inversée comme on a en ce moment, le modèle n'est pas viable, mais il existe des solutions ailleurs qui ont été essayées. C'est juste qu'on est en retard pour les appliquer, mais la force des choses va amener les politiciens à devoir revoir le modèle complètement.
Karim El Ayoubi est porte-parole en santé pour le Parti conservateur du Québec. On vous remercie beaucoup, Dr. El Ayoubi, pour votre temps avec nous en ondes ce matin. On vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée, merci.
Merci beaucoup, au revoir. C'était le docteur Karim El Ayoubi. Pascal, excellent texto d'Isabelle qui dit « Cette histoire-là, coudonc, c'est une mise en scène pour nous laisser croire que François Legault du leadership, en reculant sur le projet de loi 2 et en mettant Dubé out. Le pire, c'est que les gens vont se souvenir que de ça pour les prochaines élections. »
Ben pour moi, c'est pas du leadership. Pour moi, non. C'est du ramassage de fiasco, de pots cassés, de vitres par terre, puis que tout le monde au sein de la CAQ pile sur les éclats depuis des mois. Parce que du leadership, pour moi, on n'en serait jamais où on en est en ce moment. Pour moi, c'est un retour à la prise de contrôle de certains dossiers pour un premier ministre qui est notamment pas capable de gérer tous les dossiers et qui ne connaît pas l'entièreté du dit dossier. Il est rendu dans tellement de ministères à titre de personne qui représente que pour moi, ça démontre beaucoup plus une faiblesse de leadership.
Ouais, et il passe des commandes dérisoires, puis là, on va en nommer plusieurs. La loi spéciale 2, parce qu'il voulait mettre les médecins ou pas. Les calculs étaient mal faits dans la loi spéciale. Le problème qu'on vit avec la Constitution du Québec, où on veut tenter de s'approprier une Constitution de façon partisane, alors que ça doit être un parcours, une constitution qui se fait avec tous les partis politiques à l'Assemblée nationale. Et le dernier, je te le nomme parce qu'on va en parler après la pause, l'immigration. Mm-hmm. Le retrait du programme PEC, du programme Expérience Québec, qui fait en sorte que présentement, dans la ville de Québec, on a 13 000 personnes qui risquent de quitter. 13 000 personnes qui travaillent là, dans les restos, dans les pharmacies, dans les entreprises près de chez vous. Et c'est justement de ça qu'on va parler après la pause, Pascal, avec Félix Devisme, qui est d'origine française, qui est avec nous aujourd'hui en observation, étudiant au CRTQ, que vous aviez déjà entendu ici dans l'émission du matin à deux reprises parce qu'il y avait eu des problèmes justement avec son visa de travail. Donc, on parle de ça immédiatement après la pause. Restez des nôtres, vous êtes à Marceau le matin. Marceau.